Et sans plus attendre, je laisse la parole au modérateur Taoufik Djebali, que je remercie également pour sa présence et sa disponibilité. Je vous souhaite de passer un moment agréable, donnant lieu à un échange fertile entre participants.
Merci beaucoup, Bertrand. Bonjour à tous et à toutes. Alors, donc, on va commencer par Olivier Coquelin, qui enseigne en Eloi à l'Université de Caen. Sa participation, en tout cas sa communication, est intitulée « Mémoire événementielle et oubli, 1917, dans la Révolution irlandaise ». Et juste donc un mot pour 1917, évidemment c'est le centenaire de la Révolution russe, bolchevique, octobre 1917, mais il semblerait qu'en Irlande, il se passait, en apparence du moins, peu de choses. Mais comme on dit en sociologie, « things are not what they seem ». Donc, je vais laisser la parole à mon collègue, donc Olivier, qui va nous montrer que finalement, même en Irlande, en apparence, rien ne s'était passé. Il s'était passé beaucoup de choses. Voilà, vous avez la parole.
Merci, Taoufik. Bonjour à toutes et à tous. Alors, quelques mots en guise de préambule. D'abord, pour vous informer que cette intervention s'inspire d'un article qui doit faire l'objet d'une publication dans les cahiers d'histoire, revues d'histoire critique, d'ici la fin de l'année, dans un numéro spécial consacré donc à l'année 1917 en Europe, avec pour titre original 1917, une année charnière dans la Révolution irlandaise. Alors, ce qui m'est arrivé dans cette perspective, et en lien justement avec la dialectique du titre d'aujourd'hui, « Mémoire événementielle et oubli », et que lorsqu'on m'a contacté pour me proposer de contribuer à ce numéro spécial, ma première réaction aura été de demander ce que j'allais bien pouvoir dire sur l'année 1917 en Irlande, année qui pourtant fait partie intégrante du bornage chronologique de la Révolution irlandaise qui va de 1916 à 1923. Au bout de quelques minutes de réflexion, j'ai fini par me rappeler qu'au contraire, 1917 apparaît comme une année déterminante quant à la suite des événements. Alors tout ça pour dire que ma réaction première, aurait sans doute également été celle de bon nombre de personnes bien au fait ou non de l'histoire de la Révolution française, au sens où, comme Taoufik l'a souligné, donc rien de vraiment spectaculaire ne s'est produit en 1917, en comparaison avec la Russie, bien sûr. 1917, donc contrairement aux autres années de la période révolutionnaire, justement, à commencer par la révolution avortée de 1916, puis 1918 avec la crise de la conscription et la victoire électorale du Sinn Féin, suivie de la guerre d'indépendance de 1919 à 1921, du traité anglo-irlandais de 1921, décembre 1921, et enfin la guerre civile de 1922 à 1923. Événement marquant resté depuis gravé dans la mémoire collective, ce que l'on peut désigner ici comme la mémoire événementielle, contrairement cette fois à ceux, donc aux événements, qui ont jalonné l'année 1917. Laquelle année ne mérite donc pas l'oubli consciente ou inconsciente dont on a pu faire l'objet jusque-là, comme nous allons tenter de le démontrer à présent. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, pardon. D'accord, ok. Alors, je vais commencer par présenter brièvement la Révolution irlandaise. Alors, pour aller très vite, on peut dire que celle-ci fut l'aboutissement d'une longue histoire de domination coloniale de l'Angleterre puis de la Grande-Bretagne sur l'Irlande, de dépossession terrienne au profit des colons anglais et écossais de confession protestante, de conflits ethnico-confessionnels entre protestants de culture anglo-saxonne et catholique d'origine celtique ou anglo-normande, et de lutte politique pour l'autonomie ou l'indépendance du pays. Une longue histoire, donc, qui débuta dès le XIIe siècle. Pour ce qui est du point de départ de la Révolution irlandaise, les historiens prennent généralement pour élément déclencheur l'insurrection avortée de Pâques 1916, derrière laquelle l'on trouvait deux forces principales, le mouvement séparatiste et le mouvement ouvrier. Alors, le mouvement séparatiste, d'abord, représenté par la frange la plus radicale des Irish Volunteers, à la tête desquels figuraient certains dirigeants de l'Irish Republican Brotherhood, ou IRB. Alors, quelques mots rapides sur ces deux organisations. Donc, je vais lire ce qui apparaît donc sur l'écran. Rapidement, je pense que c'est important de manière à ce qu'on comprenne la suite. Alors, l'IRB, l'Irish Republican Brotherhood, donc il s'agissait d'une société secrète de type maçonnique fondée en 1858 par des vétérans de la rébellion, là encore avortée, de 1848. Elle se fixait pour objectif d'établir en Irlande une république indépendante par voie insurrectionnelle via la stratégie dite de la force physique. Elle échoua une première fois en 1867. Mais malgré le déclin qui s'ensuivit, l'organisation demeura active et devait même connaître un certain regain au début des années 10. Donc, le déclin qui allait donc profiter donc, au mouvement pour le Home Rule, mouvement qui visait l'autonomie de l'Irlande au sein de l'ensemble britannique. Et donc, il s'agissait d'un mouvement plus modéré et légaliste. Quant aux Irish Volunteers, donc, il s'agissait d'une milice nationaliste créée en 1913, en réplique à la fondation par les unionistes d'une Ulster Volunteers, Volunteer Force destinée à faire obstacle à l'application du Home Rule, les armes à la main, si nécessaire. Donc le Home Rule qui avait été donc adopté au Parlement de Londres en 1912. Alors, pour revenir donc à ces deux organisations, donc deux organisations minoritaires donc en fait, au sein de l'Irlande nationaliste, qui s'allièrent au bataillon ouvrier du socialiste et syndicaliste James Connolly, à savoir donc, l'Irish Citizen Army, représentant quant à elle la frange séparatiste et minoritaire du mouvement ouvrier irlandais. Alors, quelques mots là encore sur l'Irish Citizen Army. Donc, celle-ci fut créée lors de la grève générale de Dublin en 1913, et ce, donc, dans un premier temps, afin d'assurer la protection des travailleurs, des grévistes, contre les violences policières. Donc, elle allait par la suite se transformer progressivement en une force offensive et subversive, sous l'impulsion, justement, du syndicaliste et socialiste James Connolly. Alors, si l'insurrection de 1916 n'avait pas réussi donc, à détruire ou à anéantir l'Empire britannique, elle devait néanmoins graduellement ouvrir la voie à la guerre d'indépendance de 1919-1921. Alors, un conflit, donc, là encore, orchestré par les Irish Volunteers, se faisant désormais appeler Irish Republican Army, ou IRA, pour faire plus simple, et son pendant politique, le Sinn Féin, signifiant donc en français, donc ça vient du gaélique, signifiant « nous seuls ». Alors le Sinn Féin sortit quant à lui grand vainqueur en Irlande des élections législatives de décembre 1918 et porteur d'une stratégie de résistance passive fondée sur la mise en place d'institutions locales telles l'Assemblée nationale d'Irlande, également connue comme la Dáil Éireann en gaélique, destinée à rendre caduque toute ingérence britannique dans les affaires irlandaises. Avec pour épilogue la conclusion en décembre 1921 du traité anglo-irlandais, à l'origine d'une guerre civile au sein des forces indépendantistes de 1922 à 1923, qui déboucha sur la victoire des partisans du traité, lequel traité donc entérinait notamment la division de l'île en deux, avec d'un côté l'État libre d'Irlande, composé des 26 comtés du Sud à dominante nationaliste et catholique, et membre du Commonwealth, qu'il quitta en 1949 pour devenir la République d'Irlande, donc telle qu'on connaît l'entité aujourd'hui, et d'un autre, l'Irlande du Nord, constituée des 6 comtés de la province d'Ulster, à majorité protestante et unioniste, maintenue dans le Royaume-Uni. Cependant, avant d'en arriver là, avant l'avènement de tous ces événements ô combien spectaculaires, demeurés depuis dans la mémoire collective, s'était produit donc un certain nombre de choses. Ainsi, au lendemain du soulèvement de Pâques, 1916, les forces impliquées directement ou indirectement avaient dû subir les foudres d'une administration britannique passablement ébranlée par pareil acte de trahison en cette période de conflit mondial. S'ensuivit donc une période de répression sous forme notamment d'arrestations arbitraires, d'incarcération des rebelles survivants et d'exécution donc des principaux leaders. Affaibli mais non résigné, il fallut néanmoins attendre l'année 1917 pour voir les mouvements séparatistes et ouvriers se relever progressivement pour emprunter cette fois des voies divergentes d'un point de vue stratégique, ce qui n'alla pas sans influer sur le cours des événements et par conséquent sur l'avenir du pays. Alors, je vais consacrer donc la première grande partie au mouvement séparatiste. Alors, nous avons vu à l'instant que le Sinn Féin constitua l'un des éléments moteurs de la guerre d'indépendance, ce qui peut sembler paradoxal vu qu'il ne prit aucune part directe au soulèvement de 1916. Or, malgré cela, le Sinn Féin allait apparaître comme le grand bénéficiaire de la répression opérée contre des insurgés ayant pourtant essuyé, dans un premier temps, les critiques acrimonieuses de la population. Alors, quelques mots, là encore, sur les origines et la doctrine du Sinn Féin original. Alors oui, pardon, ici, donc, il s'agit de, de combattants, sur la photo qu'on peut voir, des combattants de l'Irish Citizen Army pendant la semaine de Pâques 1916, le soulèvement de Pâques 1916. Alors, le Sinn Féin est une organisation donc, nationaliste fondée en 1905 par Arthur Griffith. Alors, il se voulait à l'origine donc, une synthèse, on va dire, hein, des traditions constitutionnelles et révolutionnaires du nationalisme irlandais. Alors, son but n'était plus d'obtenir l'autonomie, comme c'était le cas des nationalistes constitutionnels, par voie légale et constitutionnelle, donc, ni l'indépendance par la force des armes, hein, comme à laquelle donc, aspiraient donc, les nationalistes révolutionnaires, mais d'acculer les autorités britanniques à concéder au pays sa souveraineté sur le modèle austro-hongrois de la double monarchie, donc le Sinn Féin original était plutôt monarchiste, via le refus des députés irlandais de siéger au Parlement de Londres pour se constituer en Parlement autonome à Dublin, lequel instaurait donc des institutions locales destinées à rendre vaine toute immixtion britannique dans les affaires irlandaises, comme on l'a présenté tout à l'heure. Désolé. Cependant, donc, l'incontestable donc, influence du Sinn Féin hein, sur les esprits les plus radicalement nationalistes de l'époque n'en faisait pourtant pas une formation de masse capable d'ébranler un peu, un tant soit peu, on va dire, l'hégémonie électorale du parti autonomiste, le parti pour le Home Rule de John Redmond, à savoir donc, l'Irish Parliamentary Party. Et ce, bien sûr, en dehors des bastions unionistes de l'Ulster favorables au maintien du territoire à l'intérieur du Royaume-Uni. Car si en 1909, juste pour vous donner un exemple, le parti de Griffith compta jusqu'à 128 sections dans tout le pays, à la veille de la rébellion de 1916, il n'y en restait plus qu'une à Dublin, réduite à la portion congrue autour de son hebdomadaire Nationality. Le Sinn Féin semblait tellement inoffensif de par le peu de crédit dont il jouissait auprès de l'opinion publique que pour dénigrer de la façon la plus sarcastique qu'il soit les séparatistes des Irish Volunteers, la presse proche des parlementaires autonomiste en vint à employer l'expression de Sinn Féin Volunteers à partir de septembre 1914, c'est-à-dire au moment de la rupture au sein de la milice nationaliste entre les partisans de l'autonomie, dont largement majoritaire, désireux de participer donc à l'effort de guerre britannique sous l'appellation d'Irish National Volunteer Force, en réponse à la promulgation le 15 septembre d'un Home Rule néanmoins suspendu le temps des hostilités, et d'un autre côté, la frange séditieuse, donc largement minoritaire, dominée par l'IRB, l'Irish Republican Brotherhood, qui conserva donc le nom d'origine. Quoi qu'il en soit, Sinn Féin et Sinn Féiner devinrent dès septembre 1914 des termes génériques utilisés pour désigner tout courant ou militant séparatiste hostile à la stratégie politique du parti autonomiste. Rien d'étonnant du coup à ce que la fameuse rébellion de 1916 hein, fut baptisée Sinn Féin Insurrection, alors même que Griffith n'y prit absolument aucune part et s'y opposa même fermement lorsqu'il apprit ce qui se tramait, à son insu. À l'issue donc de cette semaine hein, de rébellion, hein, une semaine de combat qui fut quand même limitée pour l'essentiel à Dublin, Griffith devait compter donc parmi les nombreuses personnes arrêtées et incarcérées par les autorités britanniques, non pour leur participation au soulèvement, mais pour y avoir été indirectement impliqués. Car l'insurrection du Sinn Féin, selon les autorités britanniques, ne pouvait à l'évidence trouver sa source d'inspiration ailleurs que dans l'œuvre et la propagande du maître à penser de l'organisation nationaliste. Ce qui, du reste, n'était pas entièrement erroné. En effet, l'ironie de l'histoire veut que dans les rangs des rebelles de Pâques 1916 figurassent non seulement un certain nombre d'adeptes des théories de Griffith, pourtant fondée entre autres sur le principe de résistance passive, mais aussi des Sinn Féiners de renom tels que William Cosgrave, donc premier chef de gouvernement de l'État libre d'Irlande de 1922 à 1932, et Shunty O'Kelly, également membre de l'Irish Republican Brotherhood. Tout cela, bien entendu, ne devait pas laisser le peuple irlandais longtemps indifférent, d'autant que la répression sanglante opérée contre des leaders révolutionnaires ayant d'abord été couvert d'opprobre en cette période de conflit mondial, hein, où de la victoire britannique dépendait l'autonomie irlandaise. Donc, cette répression donc, sortit l'orgueil national de sa torpeur pour graduellement le mettre à l'étude du nouvel évangile selon Griffith, au détriment de la bonne parole prêchée jusque-là par les apôtres du vieux parti autonomiste. Dans un premier temps, néanmoins, le Sinn Féin ne sut pas tirer profit du brusque retournement de l'opinion publique autour de son nom, du fait sans doute de l'incarcération, des figures les plus radicales du mouvement séparatiste. Libérés fin décembre 1916, pour partie, ces derniers allaient dès lors s'efforcer de cristalliser la Sinn Féinisation des esprits à des fins politiques. La première étape de ce processus fut de soutenir la candidature sous l'étiquette Sinn Féin du comte Plunkett à l'élection partielle de février 1917 dans le comté de Roscommon. Donc là, vous pouvez voir donc une affiche où on aperçoit donc John Redmond, donc le leader du parti autonomiste, parti autonomiste irlandais, qui avait pris position pour les Britanniques dans le premier conflit mondial. Et donc ici, on peut voir donc une affiche hein, de, lors de la campagne pour l'élection donc, du comte Plunkett. C'est ainsi que tout au long de sa campagne, Plunkett put compter sur l'appui, certes, du Sinn Féin, hein, de Griffith, ainsi que des Irish Volunteers, mais également sur celui de l'Irish National League, donc c'était une organisation fondée à l'initiative d'autonomistes dissidents, donc qui n'allait pas dans la ligne, si vous voulez, de Redmond, donc d'autonomistes dissidents d'Ulster, et de personnalités diverses, telles que le syndicaliste William O'Brien, donc ancien compagnon de feu James Connolly, et Seamus O'Doherty de l'IRB. La victoire de Plunkett ne souffrit aucune contestation, recueillant près de 56% des voix contre 31% et 13% pour les deux autres candidats autonomistes. L'unification du mouvement séparatiste se mettait en marche pour se voir officiellement entériné fin octobre 1917 lors du congrès annuel d'un Sinn Féin, désormais connu comme le nouveau ou le second Sinn Féin, par opposition à l'ancien ou le premier Sinn Féin de Griffith, avec à sa présidence Eamon de Valera en lieu et place d'Arthur Griffith, relégué à la vice-présidence. C'était donc il y a 100 ans, presque jour pour jour, puisque ce congrès-là eut lieu le 25 et le 26 octobre 1917. Alors, juste ici, deux photos de Griffith, donc une photo, pardon, où on peut voir Griffith et De Valera. On ne se moque pas. Entre-temps, galvanisés par l'élection du comte Plunkett, hein, les Sinn Féiners avaient fait, non sans succès, du prosélytisme à travers tout le pays. Les adhésions donc affluèrent à un point tel qu'en l'espace de 9 mois, l'organisation séparatiste atteignit un effectif impressionnant d'environ 250 000 membres, répartis en plus de 1 200 sections. D'un groupuscule sur le déclin, le Sinn Féin était donc en passe de se transformer en un véritable mouvement de masse en cette fin d'année 1917. Toutefois, pour en arriver là, il aura également fallu traverser le terrain fangeux de la discorde entre les différentes composantes et personnalités clés du nouveau Sinn Féin. En guise d'exemple, hein, on peut ainsi mentionner la question de savoir s'il fallait faire du Sinn Féin une organisation républicaine ou non, laquelle question devait déchaîner les passions à la libération des derniers insurgés de 1907, c'est-à-dire en juin 1917. Et donc, c'est cet événement qui illustre l'affiche hein, de cette séance du séminaire Eribia. Alors, pour une Irish Republican Brotherhood, IRB, donc passée sous le magistère de Michael Collins depuis sa sortie de prison en décembre 1916, et des Irish Volunteers, donc dirigés par De Valera, ayant conjointement marqué la rébellion de Pâques du sceau de la République d'Irlande, il apparaissait difficile de répondre autrement que par l'affirmative. En revanche, bien que Griffith et la plupart de ses partisans n'excluent pas totalement l'idée d'établir une république, il a trouvé néanmoins irréaliste, voire pernicieuse, au regard de la conjoncture politique du moment. En effet, horrifiés par la perspective d'un tel projet, les parlementaires unionistes et conservateurs ne manqueraient pas, selon eux, d'exercer davantage de pression pour faire avorter toute tentative de règlement de la question irlandaise. C'est pourquoi, du reste, ils se prononcèrent plutôt en faveur d'une constitution monarchique, et ce, donc, dans le sillage de pensée de l'ancien Sinn Féin. Finalement, De Valera donc, réussit à trouver une solution de compromis qu'il explicita lors d'un discours prononcé fin septembre. Je cite, « Le Sinn Féin exige que l'Irlande fasse connaître précisément ses revendications à la conférence de la paix. Par conséquent, le Sinn Féin doit désigner les délégués qui formuleront nos vraies aspirations de telle manière que les agents de la presse anglaise ne pourront les déformer. Pour aboutir à cette fin, les Sinn Féiners devront s'afficher comme républicains irlandais. Terme qui, plus qu'aucun autre, seront compris en Amérique, en Russie et en France. Une fois libéré, le peuple irlandais pourra opter pour une monarchie ou pour une république. » Alors, des radicaux républicains aux modérés monarchistes, tous apportèrent leur caution à la proposition de De Valera. Officiellement colmatée lors du congrès d'octobre 1917, hein, la brèche n'en demeura pas moins ouverte dans les esprits. Néanmoins conscients des dégâts, que pouvait engendrer leur dissension interne, les séparatistes irlandais optèrent pour l'unité de façade, guidés en cela par leur insatiable soif de conquête d'une opinion publique ayant néanmoins conservé une certaine affection à l'égard du parti autonomiste. Dans le même ordre d'idées, les Irish Volunteers s'étaient résolus au cours de la première moitié de l'année 1917 à sceller une alliance avec le Sinn Féin au lieu de fonder leur propre machine politique. Symbole de cette stratégie d'union entre le politique et le militaire, un jour après son avènement à la tête du Sinn Féin, De Valera fut élu président de la milice séparatiste, laquelle elle a également donc lancé dès le lendemain de son congrès, de novembre 1917, une vigoureuse campagne de recrutement pour atteindre un effectif de 30 000 hommes début 1919, c'est-à-dire à l'aube de la guerre d'indépendance. En fait, de toutes les organisations irlandaises, plus ou moins imprégnées de nationalisme, en dehors bien entendu du parti autonomiste, le mouvement ouvrier officiel n'entra pas dans la composition du nouveau Sinn Féin, et ce, bien que quelques syndicalistes, dont William O'Brien, lui aient prêté leur concours à titre individuel lors de ces trois campagnes électorales de 1917. Non, il ne veut plus marcher. Alors, juste pour dire, je voulais vous montrer... Oh, c'est quoi ce truc ? Office. Oh là là. Je voulais vous montrer la composition, en fait, du nouveau Sinn Féin. Donc, les différentes formations constitutives du nouveau Sinn Féin. Donc, en fait, le Sinn Féin tenait lieu de fédération, d'accord ? Ce qui signifie que toutes les formations l'ayant rejointe donc, existaient indépendamment du Sinn Féin. Bon, c'est pas grave, Bertrand, puis on va pas perdre de temps. Okay. Donc, on retrouvera principalement l'IRB, l'Irish Republican Brotherhood, et les Irish Volunteers, plus d'autres, on va dire, groupuscules. D'accord ? Alors, à propos justement des 9 élections partielles auxquelles participa le Sinn Féin de février 1917 à juin 1918, il convient de préciser que le succès ne vint pas toujours couronner les candidats séparatistes, loin de là. Ainsi en fut-il notamment dans deux circonscriptions de la province d'Ulster, Armagh Sud et Tyrone Est, où le parti autonomiste démontra qu'il exerçait encore un certain ascendant sur l'électorat nationaliste du nord-est de l'Irlande. Mais le vent du changement, on va dire, soufflait déjà sur le reste du pays d'une manière, semble-t-il, irréversible. Un phénomène que la crise dite de la conscription devait d'ailleurs confirmer. En effet, afin de compenser les lourdes pertes causées par près de 4 ans de guerre, le gouvernement de coalition du libéral David Lloyd George introduisait en avril 1918 le Military Service Bill, qui imposait donc à l'Irlande le service militaire obligatoire. Or, c'était compté, sans l'opposition virulente d'une grande majorité d'Irlandais. À l'exclusion des milieux unionistes, tous, républicains, nationalistes modérés, parlementaires autonomistes, syndicalistes, etc., se rangèrent sous la bannière de l'Union sacrée pour combattre une mesure née, selon eux, de l'arbitraire impérial. Même le clergé catholique, dans son ensemble, rejoignit les rangs des mécontents après avoir pourtant soutenu jusque-là l'effort de guerre britannique. La fin du conflit mondial, donc le 11 novembre 1918, acheva de rendre totalement caduque l'application d'un Military Service Bill, resté de toute façon lettre morte, en raison sans doute de la farouche résistance que lui avait opposée un grand nombre d'Irlandais, malgré la coercition gouvernementale. L'Empire britannique ne devait pas sortir grandi de cette épreuve de force aux yeux de l'Irlande nationaliste et catholique, bien au contraire. En conséquence, les élections législatives de décembre 1918 virent le Sinn Féin triompher sur l'île dans 73 circonscriptions sur 105, aux dépens du parti autonomiste qui ne remporta que 6 sièges contre 83 lors du précédent scrutin de décembre 1910. Les unionistes, quant à eux, profitèrent aussi dans une moindre mesure de la débâcle des parlementaires autonomistes. Ils passèrent ainsi de 19 à 26 élus en tout. Conformément donc à la stratégie d'abstention parlementaire prônée par le Sinn Féin originel, c'est-à-dire fondée sur le refus des députés irlandais de siéger à la Chambre des communes de Londres, les élus séparatistes se réunirent en Dáil Éireann, c'est-à-dire en Assemblée d'Irlande, et ratifièrent l'établissement de la République d'Irlande le 21 janvier 1919, soit le jour où le bras armé du Sinn Féin, à savoir donc les Volunteers, désormais connu comme l'Irish Republican Army, l'IRA, déclencha ce qu'il fut convenu d'appeler la guerre d'indépendance. La radicalisation de l'Irlande nationaliste et catholique atteignait ainsi son paroxysme, ce dont ne sut profiter le mouvement ouvrier de par la stratégie qu'il adopta, au lendemain du soulèvement de Pâques, auquel sa fraction armée, l'Irish Citizen Army, avait pourtant bénéficié. Alors j'en viens à présent donc au mouvement ouvrier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la rébellion de 1916 avait également laissé le mouvement ouvrier en plein désarroi. Avec l'exécution de James Connolly, les syndicats donc, perdirent sans doute l'un des tacticiens les plus compétents et son unique théoricien socialiste. D'autre part, donc, d'autres personnalités, hein, comme Michael Malin, chef d'état-major de la Citizen Army, fut également fusillé. Richard O'Carroll, membre de l'exécutif de la seule confédération syndicale du pays, l'Irish Trade Union Congress, et Peter McCann, vice-président du Conseil des syndicats de Dublin, périrent sous l'uniforme des Volunteers lors des hostilités. Et en tant que quartier général donc, de la Citizen Army, le Liberty Hall fut saccagé. En outre, persuadé de l'implication directe du mouvement ouvrier dans le soulèvement, le gouvernement britannique fit arrêter tous les dirigeants syndicaux qui avaient exprimé de la sympathie envers la cause nationale, bien que la plupart d'entre eux n'aient pris aucune part à la révolte. En cette période de crise, la responsabilité du mouvement syndical revint en l'occurrence aux membres de l'exécutif de la Confédération des syndicats irlandais, connus pour leur hostilité à l'encontre de l'idéal séparatiste. Ainsi, les deux dirigeants de Belfast, Thomas Johnson et David Campbell, occupèrent les fonctions laissées vacantes de président et de trésorier. En principe, ils devaient simplement assurer l'intérim en attendant la libération de leurs camarades de Dublin. Pourtant, au cours de la décennie à venir, les deux hommes allaient devenir des figures importantes au sein de la direction du mouvement ouvrier irlandais, et en particulier Thomas Johnson. L'autre figure de proue du mouvement ouvrier, qui émergea donc à la suite de la rébellion de 1916, fut incontestablement William O'Brien. Bien qu'affilié à l'Irish Citizen Army, il ne put participer à l'insurrection en raison d'une tumeur au pied qui l'handicapait fortement. Ce qui n'empêcha pourtant pas les autorités britanniques de le faire arrêter du fait de ses velléités séparatistes. Dès sa sortie de prison, fin juillet 1916, O'Brien s'attela, en compagnie entre autres de Johnson, à la tâche de la réorganisation du mouvement syndical et du parti travailliste. Pour ce faire, ils prirent bien soin de ne pas s'aliéner les travailleurs protestants du nord-est du pays en se concentrant uniquement sur des questions économiques et sociales. Dans cette orientation, relevant de ce qu'on peut appeler l'économisme, le parti travailliste fut tout naturellement désigné pour promouvoir une politique de réforme sociale en vue des diverses échéances électorales à venir. Or, en période d'expansion du nationalisme, pouvait-il se permettre de reléguer au second plan le versant politique de la question irlandaise et espérer ensuite occuper, je cite, « la place qui leur revenait de droit dans la vie politique du pays » Que Thomas Johnson, de par ses origines britanniques et sa résidence à Belfast, ait mal apprécié l'importance que prenait la question nationale dans la vie politique irlandaise est quelque peu compréhensible. En revanche, que William O'Brien, ami fidèle de James Connolly, et Thomas Farren, vétéran de l'insurrection de Pâques, sous-estimassent la force du sentiment national, qu'ils choisissent en somme d'ignorer les principes posés par Connolly de 1914 à 1916, est pour le moins surprenant. Sans doute, comme le suggère l'historien Arthur Mitchell, voit-il une foi indéfectible à la thèse marxienne selon laquelle la classe ouvrière s'emparerait inéluctablement du pouvoir économique et politique. Une croyance qu'aurait probablement renforcé, toujours d'après Mitchell, les révolutions russes de février et d'octobre 1917. D'un autre côté, si les syndicats affiliés à la Confédération des syndicats irlandais s'étaient pleinement investis dans la lutte nationale, auraient-ils fait autant de prosélytes entre 1917 et 1921, passant ainsi de 100 000 à 300 000 adhérents? Il est bien entendu permis d'en douter. Néanmoins, ce manque d'initiative sur le plan purement politique de la part des successeurs de Connolly allait, à plus ou moins long terme, porter préjudice au mouvement ouvrier irlandais. Cette tendance à l'économisme trouva son illustration, entre autres, dans la répudiation du bras armé du prolétariat organisé, à savoir l'Irish Citizen Army, qui avait pris part au soulèvement de Pâques. En se dotant d'une organisation militaire, les dirigeants syndicaux craignaient en fait d'attirer l'attention des autorités britanniques et de compromettre ainsi l'essor du syndicalisme en Irlande. De sorte qu'une fois réorganisé, début 1917, la milice ouvrière devait voler de ses propres ailes pendant la Révolution, au cours de laquelle elle ne fut jamais en mesure de peser sur les événements, principalement en raison de sa faible capacité d'armement. Ce qui signifie que les travailleurs désireux de s'impliquer activement dans la lutte nationale n'avaient guère d'autre alternative que de se tourner vers les Irish Volunteers, rebaptisés IRA, donc Irish Republican Army, en janvier 1919. Par ailleurs, les instances syndicales cherchèrent de toute évidence à préserver l'indépendance tant économique que politique du prolétariat. ce qui peut expliquer qu'en janvier 1917, William O'Brien refusa de cautionner le projet d'Arthur Griffiths, donc père fondateur de Sinn Féin, donc leader de Sinn Féin encore à l'époque, visant à fédérer toutes les organisations opposées au parti unioniste d'Ulster et au parti autonomiste. Pourtant, O'Brien, accompagné de certains de ses camarades, devait tout de même, à titre personnel, prêter la main au Sinn Féin lors des diverses élections partielles organisées en 1917, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Il contribua ainsi aux victoires de Con Plunkett en février 1917, de Joseph McGuinness en mai et d'Eamon de Valera en juillet, tous trois élus face à des candidats autonomistes. En outre, O'Brien et ses compagnons assistèrent en avril 1917 à la convention du Con Plunkett où diverses obédiences nationalistes étaient représentées. Des déçus, du parti autonomiste aux républicains les plus radicaux. Cette assemblée avait pour objectif principal de créer une coalition nationale en vue de faire valoir à la Conférence internationale pour la paix, à l'issue de la Grande Guerre, les aspirations de l'Irlande à l'indépendance. Cependant, les délégués ne firent là que jeter les bases d'un nouveau mouvement national dans la mesure où beaucoup de membres de dirigeants des Volunteers, notamment De Valera, croupissaient encore à cette époque dans les geôles britanniques. En leur absence, la Convention ne pouvait donc se permettre d'élaborer le moindre plan d'action définitif. Aussi, question indirecte, est-on en droit de penser qu'en ces circonstances, la direction du mouvement ouvrier n'aurait sans doute pas éprouvé trop de difficultés à assigner une dimension radicalement sociale au dessein d'un mouvement indépendantiste en pleine gestation ? Merci. Donc voilà, donc les brièvement, les différentes formations constitutives du nouveau Sinn Féin. Donc voilà, juste pour illustrer, donc une photo d'un regroupement, d'un meeting anti-conscription 1918, et puis voilà, les résultats en détail des élections générales de 1918. Donc James Connolly exécuté, et le Liberty Hall saccagé. Thomas Jefferson, etc. Ce que je voulais vous montrer, désolé. Alors, aussi, donc, est-on en droit de penser, comme je disais, que la direction du mouvement ouvrier n'aurait sans doute pas éprouvé trop de difficultés à signer donc, une dimension radicalement sociale au dessein d'un mouvement indépendantiste en pleine gestation ? Et donc, question, le prolétariat organisé ne se trouvait-il pas, ce premier tiers d'année 1917, en position de force par rapport aux différentes formations séparatistes ? À l'inverse de ces dernières, n'était-il pas parvenu assez rapidement à quelque peu redorer son blason au lendemain de la répression orchestrée par les Britanniques ? C'est donc sans les différentes composantes du mouvement ouvrier qu'en octobre et novembre 1917, Griffith et ses partisans réussissaient tant bien que mal à unifier le mouvement séparatiste autour du Sinn Féin avec Eamon de Valera pour leader. Un mouvement séparatiste que la Confédération des syndicats irlandais, parti travailliste, avait perçu, semble-t-il, comme un opposant potentiel et non comme un instrument pouvant être utilisé à ses propres fins. Cette défiance, les dirigeants syndicaux devaient, par la suite, l'exprimer notamment à propos du contenu socio-économique des dessins du nouveau Sinn Féin. Sur le chapitre salarial, par exemple, l'Irish Opinion, nouvel organe donc, du mouvement syndical, en vain à déceler une communauté d'aspiration entre l'organisation séparatiste et William Martin Murphy, leader des employeurs de Dublin, donc leader des patrons dublinois. Je cite, il s'agit de la deuxième citation, « Il s'agit d'une résolution que même William Martin Murphy ne renierait pas. Elle ne va pas assez loin. Elle ne va pas assez loin. Les revendications du mouvement ouvrier dépassent largement la demande de salaire équitable et raisonnable. Plus loin, le journal ouvrier fustigea également la politique de la main tendue de De Valera. Monsieur De Valera demande en fait au mouvement ouvrier d'attendre que le pays soit libéré avant de réclamer la part d'héritage qui lui revient. Il existe des pays libres et même des républiques où le mouvement ouvrier réclame en vain la part d'héritage qui lui revient. Nous continuerons à travailler tout en réclamant notre part d'héritage à la moindre occasion. » Fin de citation. En fait, les responsables syndicaux craignaient à l'évidence que la cause nationale ne détournât un peu trop les travailleurs de leurs préoccupations économiques et sociales, qu'elle ne les amena, en d'autres termes, à soutenir massivement un mouvement, en l'occurrence Sinn Féin, dominé par des individus dont les intérêts ne coïncidaient pas toujours avec les leurs. Aussi s'investit-il tout au long des années 1917 et 18 dans l'élaboration d'une véritable alternative politique susceptible de rassembler l'ensemble du prolétariat irlandais autour du seul et unique parti travailliste. symbole de cette politisation accrue du mouvement syndical. Au congrès, bon, je vais passer ça. Un congrès, donc, alors, il s'est produit donc un congrès, donc, fut organisé donc un congrès annuel en 1918, août 1918. Donc, je passe une partie là. Donc, au cours duquel fut également donc décidé de présenter des candidats aux élections locales comme nationales. Et dans cette perspective, les syndicats irlandais n'hésitèrent pas à empiéter sur le territoire idéologique de leurs concurrents séparatistes. Ils publièrent ainsi en septembre 1918 un manifeste électoral dans lequel ils plaidaient sans embâge en faveur d'une politique d'abstention parlementaire. La stratégie qui était celle de Sinn Féin, rappelez-le. Pourtant, contre toute attente, le 1er novembre, l'Irish Labour Party and Trade Union Congress décida finalement de se retirer des prochaines législatives de décembre. Je cite, « dans l'espoir que la demande démocratique d'autodétermination à laquelle le Parti travailliste et ses candidats adhèrent sans réserve, se traduisent ainsi pleinement dans les urnes. Que le Labour se désista en faveur de Sinn Féin est d'autant plus surprenant que les deux formations étaient parvenues en septembre à un accord selon lequel les séparatistes renonçaient à briguer quatre circonscriptions de Dublin, convoitées par l'organisation ouvrière, à condition que tous les candidats travaillistes, promissent solennellement, d'œuvrer pour l'établissement d'une République d'Irlande et de ne jamais siéger au Parlement de Londres. D'un autre côté, la conversion effective du Parti travailliste à l'autodétermination nationale et à l'abstention parlementaire était sans doute advenue trop tardivement, dans la mesure où, toujours selon l'historien Arthur Mitchell, la plupart des travaillistes du Sud avaient déjà attribué au Sinn Féin le rôle vecteur de la conscience nationale depuis 1917. Probablement conscient qu'en ces circonstances, le Parti travailliste ne pourrait sans doute pas acquérir les bonnes grâces de la majorité des ouvriers imprégnés de nationalisme, les dirigeants syndicaux considérèrent qu'il valait peut-être mieux s'effacer et permettre ainsi, je cite, « au peuple d'exprimer clairement son opinion sur la question de l'autodétermination ». Quoi qu'il en soit, et je conclurai sur ce point, bon, c'est pas grave, de toute façon, j'ai plus rien à montrer. En dédaignant, alors j'en viens à ma conclusion, bon, qui est relativement longue, mais qui, c'est quand même une conclusion. En dédaignant quelque peu la lutte de libération nationale au profit de l'action strictement socio-économique, le mouvement ouvrier compromit sérieusement ses chances dans la période à venir de conquérir le pouvoir tant politique qu'économique, au sens où pareille stratégie devait, d'une certaine manière, entretenir la suprématie du Sinn Féin, forgé dès 1917 pour se fortifier au lendemain des législatives de 1918. Du coup, à défaut d'une véritable opposition à l'échelle nationale, l'Ulster unioniste est excepté, l'organisation séparatiste n'éprouva guère de difficultés à mettre en œuvre une politique qui fut en phase avec sa conception interclassiste de la libération nationale, et notamment sous la forme de tribunaux ruraux qui avaient pour tâche de juguler les troubles agraires en regain constant depuis 1917. Pour sa part, plutôt que d'exploiter ce mécontentement rural dans la perspective d'une éventuelle révolution socialiste, l'Irish Labour Party and Trade Union Congress se contenta d'organiser la paysannerie pauvre et d'exhorter le gouvernement rebelle à prendre des mesures sociales d'urgence. Au lendemain de la révolution, le mouvement ouvrier se retrouva ainsi dans l'incapacité de rallier massivement l'ensemble des travailleurs avec et sans affiliation syndicale autour de sa propre machine politique, donc le parti travailliste. D'autant plus que sa non-participation aux législatives de 1918, mais aussi de 1921, avait permis aux séparatistes d'asseoir leur implantation électorale dans les milieux ouvriers. Laquelle implantation devait se confirmer et perdurer au sein de l'Irlande du Sud, à travers les deux partis nés de la scission du Sinn Féin sur la question du traité anglo-irlandais, le Cumann, c'est-à-dire donc le Cumann na Gael, désolé, je ne maîtrise pas bien le gaélique, le Cumann na Gael Fine Gael et le Fine Foil. Deux organisations idéologiquement situées au centre droit ou à droite de l'échiquier politique, suivant les périodes, qui désormais allaient former l'assise du système bipartisan sud-irlandais jusqu'au début du XXIe siècle, jusqu'à aujourd'hui. C'est donc bel et bien au cours de l'année 1917 que s'établirent les fondements stratégiques et idéologiques de la révolution irlandaise jusqu'à son dénouement final. Les forces qu'il avait conjointement initiées lors de la rébellion avortée de Pâques 1916 se scindèrent au moment de reprendre le chemin de la lutte, avec d'un côté des séparatistes qui s'imposèrent massivement au sein d'une Irlande nationaliste qu'ils voulaient unitaire et interclassiste, reléguant au second plan des questions socio-économiques facteurs de division interne, selon eux, pour se livrer à l'action strictement politique et militaire destiné à affranchir le pays de l'Empire britannique. Et d'un autre côté, des syndicalistes qui, plus soucieux de reconstruction et d'expansion organisationnelle que de libération nationale, s'exclure des rouages qui leur auraient pourtant permis d'infléchir la révolution et par voie de conséquence l'idéologie de l'État sud-irlandais dans un sens plus progressiste. Force est donc d'admettre ou de constater que 1917 constitue bel et bien une période charnière dans la révolution irlandaise, une période charnière qu'il conviendrait du coup de sortir de l'oubli pour lui reconnaître la place qu'elle mérite dans la mémoire événementielle. Je vous remercie.
Merci Olivier Potelin pour cette intervention passionnante. Merci Anne-Catherine et Bertrand pour l'expertise
et informatique.
Bon, non, mais c'est la fin, donc ça va. Avant de passer à la deuxième communication, on va peut-être prendre quelques questions, comme ça dans la foulée. Christophe.
Oui, j'avais une question. Je ne connaissais pas très bien ces enjeux en 1917, et c'est effectivement très important. La question que je me pose, c'était la décision de ne pas présenter de candidat. Bon, tu as bien expliqué. Est-ce qu'on a une idée des résultats que pouvaient espérer les candidats travaillistes ? Est-ce qu'il n'y avait pas, c'est ce que j'ai cru comprendre, l'impression que leur résultat serait peut-être décevant, qu'il valait peut-être mieux se retirer ? Tu as évoqué 4 circonscriptions à Dublin, et c'était les seules circonscriptions où ils avaient des chances raisonnables de...
Qui étaient quasiment acquises.
C'est ça.
Donc ils ont au moins 4 députés.
Oui. Mais est-ce qu'il y avait d'autres sièges ? Est-ce qu'il y avait d'autres circonscriptions ?
Quand on voit les résultats des élections de 1922, où ils obtinrent quand même un résultat plus qu'honorable, 19 ou 21% de l'ensemble des voix, avec 17 ou 18 députés, on peut penser que... à la surprise générale, même eux ont été étonnés. Je pense qu'ils étaient un peu trop modestes, on peut penser, à l'époque en tout cas. Donc pour 1918, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'institut de sondage à l'époque, tout ça. Donc à titre personnel, je pense que rien n'était joué. Sans doute qu'ils auraient obtenu moins de mon point de vue, moins de députés, moins d'élus que le Sinn Féin, mais on peut penser que le résultat n'aurait pas été aussi catastrophique que ça, de mon point de vue. Mais eux craignaient qu'il le soit sans doute. C'est un des paramètres, je pense.
Il n'y a pas d'institut de sondage à cette époque, mais il y a des militants qui sont sur le terrain et qui rendent visite, qui frappent aux portes, qui essayent, même si la période est un peu compliquée, de jauger le niveau de soutien. Donc,
Oui, en effet. D'autant plus que, encore une fois, jusqu'à, on va dire, juin, précisément juin 1917, une bonne partie des dirigeants du mouvement séparatiste, qui avaient participé notamment donc, à l'insurrection de Pâques, étaient toujours emprisonnés. Et c'est pour ça que j'ai parlé à un moment d'une convention qui avait été organisée par le Camp Plunkett en avril. En avril, De Valera était toujours en prison, par exemple. C'est pour ça que je dis que c'était peut-être le moment où ils auraient pu imposer un peu leur agenda, pour partie, au moins, aboutir à un compromis à caractère idéologique. Donc je pense que rien n'était joué, d'autant plus que j'ai précisé, en 1917, il y a 100 000 adhérents, 100 000 personnes, ce qui est énorme à l'échelle de l'Irlande, 5 000 salariés, ouvriers qui sont syndiqués. Et en 1921, ce chiffre allait donc atteindre 300 000, ce qui, à l'échelle de l'Irlande, est assez impressionnant. Pour bonne partie, en plus, des ouvriers agricoles. En quelle année ? En 1918 ou 1919, donc l'Irish Trade Union Congress, donc le syndicat le plus puissant, donc créé par Jim Larkin en 1929, avait, rien que dans ce syndicat, il y avait en 1920 100 000 adhérents, dont 50 000 d'ouvriers agricoles. Donc ils avaient fait florès également dans les campagnes, au sein justement de la paysannerie pauvre. Okay. Donc tout ça pour dire que je pense, en 1917, encore rien n'était joué.
Merci.
Alors, du coup, je vais reposer la question que je t'avais posée dans les couloirs à propos de 1917 et de l'impact de la Révolution russe. Est-ce que ce n'est pas aussi un moment où le clergé va être tenté d'intervenir auprès de ces ouvriers agricoles pour leur dire de peut-être de se méfier des syndicats ou...
Pas en 1917.
D'accord.
Février, la révolution de février est plutôt bien accueillie, assez bien accueillie en Irlande, au sein du mouvement ouvrier sans surprise, hein, qui était dominé par les socialistes. Hein. Les socialistes à l'époque, c'était les marxistes, hein. Les deux termes étaient synonymes. Il n'y avait pas encore de communistes, hein. Tout le monde était socialiste. Enfin, je veux dire, les révolutionnaires de gauche, on va dire, étaient socialistes, donc marxistes. Non, c'est surtout à partir d'octobre, voilà. Ça s'est fait graduellement, mais c'est pas véritablement en 1917. Sans doute à partir de 1918-1919. Okay. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que l'Union soviétique, l'URSS, enfin je ne sais plus comment ça s'appelait déjà, en 1919, est-ce que c'était l'URSS ? Non, pas encore, hein, je crois que c'est en 1922. Enfin bon, la Russie bolchevique a été le seul État à reconnaître... la République d'Irlande rebelle. Donc, je pense qu'il n'aurait pas été il n'aurait pas été préférable de critiquer justement l'idéologie ou le régime bolchevique à l'époque, pendant la Révolution. Donc, je pense que c'est surtout à partir... Ouais, c'est même pas dans les années 1918-1919. Je pense que c'est surtout plus tard. L'hystérie va atteindre son acmé dans les années 30, carrément. Ouais.
Merci. Peut-être une question de la part des étudiants. Sinon, on peut revenir plus tard. Olivier est toujours là.